Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.
Chers auditeurs, bonjour. Nous continuons ces interviews architectes, promoteurs, aménageurs. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Louis Charby, président de First Avenue. Bonjour.
Bonjour Myriam.
Alors, bon, vous êtes un promoteur depuis un certain nombre d'années avec quelques très très belles opérations à la clé. J'ai regardé évidemment avec attention les dernières. Vous avez effectivement deux très très belles opérations récentes à Beson et à Vanves. Vous pouvez nous en parler ?
Bien sûr. Donc depuis la création de First Avenue il y a une vingtaine d'années, nous avons réalisé des opérations essentiellement de logements à Paris en première couronne, en y adjoignant plus ou moins de services. C'est-à-dire notre cœur de métier, c'est le logement en accession à la propriété, mais nous avons aussi réalisé des résidences pour étudiants, des maisons de retraite, des résidences de tourisme. Et donc ça nous a permis de développer un savoir-faire sur le logement qui a pu donc se concrétiser sur ces deux opérations que vous citez.
Oui, alors justement, donc la plus récente, c'est Beson, c'est ça ?
La plus récente, c'est pas tout à fait Beson. Beson est en cours d'achèvement, puisque c'est une opération de 180 logements, avec une part sociale qui est vendue à AB Habitat, qui est la SADHLM locale. Le solde de l'opération a été vendu soit en accession à la propriété, pour la moitié, soit en vente en bloc près de Foncière Logement et d'Inly, qui sont des sociétés qui détiennent...
Oui, des partenaires importants pour les promoteurs, puisque ça permet effectivement de vendre une partie des opérations.
Tout à fait. Ici, on a souhaité précisément, comme c'était une grosse opération, donc sujette à un retournement pendant toute la durée de sa réalisation, on a préféré donc se dérisquer et vendre la moitié de l'opération en bloc. Le reste, c'est extrêmement bien vendu. J'ai été surpris d'ailleurs par la puissance du marché à Beson. Ce n'était pas évident. Il s'agit d'un marché essentiellement de primo-accession, hein, donc de gens qui travaillent souvent à la Défense, qui est le pôle d'emploi le plus proche. La commercialisation de l'opération s'est faite de manière extrêmement rapide, ce qui nous a permis d'être très sereins pour la réalisation de...
Alors, j'ai vu aussi, effectivement, je passe à une autre opération qui m'a paru extrêmement importante, c'est celle de votre parfait immeuble parisien avenue Gambetta, parfait parce que dans un site extrêmement contraint, avec du béton préfabriqué. Qu'est-ce que c'est pour un promoteur que d'avoir ce challenge de l'immeuble parisien ? C'est déjà un très beau challenge, mais dans un site aussi compliqué.
C'est vrai que là, on a eu un certain nombre de difficultés techniques, d'une part dues à l'exiguïté du site, qui nous a forcé à opter pour la préfabrication des éléments de façade. On aurait autrement pu tout à fait réaliser, si on avait eu les marges de recul nécessaires, on aurait pu faire une façade coulée en place, en béton même blanc, de même nature, mais banché. Donc là, on a opté pour une façade préfa.
Très joli rendu, d'ailleurs.
Très joli rendu. Les architectes, c'est LLTR, Lotte de Boursicotestas, qui sont des partenaires habituels pour nous. Et donc, on a eu aussi d'autres difficultés dues à la présence du métro, dues à mitoyen.
Enfin, le mouton à cinq pattes, quoi.
Le mouton à cinq pattes. De toute façon, à Paris, c'est souvent comme ça, puisqu'on a toujours un voisin à gauche, à droite. Et donc, là, c'était une opération qui finalement, s'est très bien déroulée aussi, sur le plan commercial, et dont on est très très content.
Alors, pour parler d'esprit un petit peu novateur et un petit peu atypique, vous êtes en train de commencer aujourd'hui à travailler, enfin vous êtes déjà très engagé sur une opération à Boulogne, en ayant repris un bâtiment qui, des années fin 70, début 80, qui appartenait à un grand bailleur sociale pour monter une opération un petit peu différente en restructurant le bâtiment et en changeant complètement la programmation. Pouvez-vous nous en parler? Parce que c'est un site aussi formidable puisqu'il s'agit plutôt d'une rue affectée à des bureaux et moins à ce que vous engagez là comme démarche.
Bien sûr. En fait, le bâtiment n'appartenait pas au bailleur. Le bailleur avait un droit d'utilisation d'une trentaine d'années. Donc, il l'a libéré au terme de ces 30 ans. Et nous avons pu donc nous positionner dessus à ce moment-là. Et donc, effectivement, il s'agit de la restructuration d'un immeuble qui arrive un petit peu en bout de course, puisqu'il y aurait pas mal de réparations à faire. Donc, au bout de 35-40 ans, ça paraît assez logique que le renouvellement urbain puisse s'opérer sur...
Mais le bailleur aurait pu garder la location de l'immeuble, restructurer, demander au propriétaire de rester avec une restructuration classique.
Il aurait pu le faire, mais écoutez, il ne l'a pas fait. Ce n'était pas la règle du jeu, je suppose, au départ. Nous-mêmes sommes étrangers à ce qui a pu se passer avant notre intervention. En tout cas, nous avons déposé une demande et obtenu un permis de construire pour réaliser une résidence de tourisme de 101 appartements, studios et deux pièces, 80% de studios, 20% de deux pièces. Elle sera exploitée...
Et donc la ville de Boulogne a accepté qu'il y ait une transformation du...
Oui, parce que là, ça rend un service objectif, puisque à Boulogne, on est tout près des terrains Renault. Il y a un pôle de bureau assez important qui a vu le jour là, ces 15 ou 20 dernières années et qui nécessite des services d'accompagnement. Et donc, les résidences de tourisme permettent donc d'apporter ces services. Voilà, donc...
Alors, vous changez complètement la physionomie du bâtiment. Mettez des beaux windows. Enfin, il y a une restructuration, je pense, extrêmement importante des façades.
Oui, il y a une restructuration très, très forte des façades qui les mettent en fait en harmonie avec les développements qui se sont produits tout autour, où les plus grands architectes, du reste, ont pu signer les immeubles environnants. Donc ici, effectivement, d'une façade en pierre agrafée, de ces années-là, on va tomber sur une façade avec des parements métalliques assez semblables, enfin de la même famille des immeubles de bureaux qui sont autour. La restructuration est très lourde puisqu'effectivement on va déplacer la façade arrière pour créer des mètres carrés supplémentaires, ce qu'autorise le règlement d'urbanisme. Et donc, il permet d'avoir une épaisseur conforme à ce type de résidence.
Hein ? Alors, j'ai vu aussi que dans ce type de résidence, on a quand même une porosité extrêmement intéressante par rapport à l'espace public. On a une vue sur un jardin intérieur. C'était aussi une volonté de pouvoir rendre ce pied d'immeuble plus attractif, hein ?
Tout à fait. Ce pied d'immeuble va donc pouvoir participer à la vie du quartier. C'était du reste un des souhaits de la mairie, de la ville. Et effectivement, nous avons un grand espace polyvalent qui offre des services d'une part aux résidents de l'immeuble et d'autre part aux habitants du quartier environnant. Donc on y trouve la possibilité de prendre son petit déjeuner, une cafétéria, acheter même... Il y a un petit commerce qui permet d'acheter quelques provisions... Et donc il y a parfois même des animations à l'intérieur, donc ça apporte plus de vie au quartier que ne le fait un immeuble de logement.
Alors, un des points, j'ai commencé à regarder un petit peu votre site et votre parcours, on a évoqué ensemble une de vos idées qui était de permettre à des investisseurs privés travailler sur du logement social et d'investir sur le logement social. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, hein ?
Oui, si vous... Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dans la plupart des communes, pas toutes, mais dans la plupart, une quote-part de l'opération doit être affectée au logement social. Et donc, on se rend compte en pratique que les promoteurs sont obligés de vendre à des SA d'HLM, c'est la quote-part sociale, très souvent, du reste, au-dessous du prix de revient. Donc, de là, l'idée qu'il pourrait la conserver, puisque cette vente entraîne un mitage de l'opération. Par exemple, pour une détention complète de l'immeuble, eh ben, on serait obligé d'en vendre une partie, alors que un investisseur pourrait avoir convenance à garder la totalité. Donc, je me suis rendu compte que...
Oui, mais est-ce que l'investisseur a une valeur ajoutée par rapport au logement social ? Qu'en est-il ?
Aujourd'hui, on sait que le secteur social est en manque de financement, puisque l'État a opéré une ponction récemment de 1,2 milliard, je crois, dans ce secteur, qui manque de capitaux. Donc, je pense que ouvrir le logement social aux investisseurs privés permettrait peut-être de trouver ces capitaux qui vont manquer, qui empêchent la réalisation d'opérations sociales et très sociales par ailleurs.
Alors, ça veut dire que les investisseurs auraient une certaine rentabilité et donc l'investissement dans le logement social ne serait pas si ridicule que ça.
Écoutez, aujourd'hui, quand on voit la faiblesse des taux d'intérêt et les rentabilités que pourraient procurer des opérations sociales, peut-être pas les plus sociales, mais les opérations de type PLS, par exemple, la détention par des investisseurs privés a du sens, oui.
Alors, ça donnerait quand même l'obligation d'avoir une règle contractuelle pour bloquer les loyers, parce que l'investisseur privé peut avoir envie, je dirais, d'augmenter les loyers et donc peut-être de crisper un peu les choses.
Hein. Non, mais le secteur social a ses propres règles, les loyers sont plafonnés, il y a des garde-fous qui pourraient être mis en place, comme par exemple la gestion de ces opérations par le secteur social, c'est-à-dire le contact entre le... avec les occupants, pourrait continuer à être fait par des SLHL. Mais je parle uniquement de la détention et du financement du secteur social.
Alors, ça, c'est une vraie idée et peut-être qu'on aura l'opportunité d'en reparler une autre fois. Je voulais aussi parler de votre investissement dans l'art, hein, puisque vous avez été un des premiers promoteurs à faire intervenir des artistes dans vos opérations, dans les halls d'entrée. Racontez-nous cette liaison entre First Avenue et l'art, hein.
Écoutez, la liaison s'est faite tout à fait naturellement depuis des années, et même parfois à la demande des municipalités qui essayent de pousser leurs artistes. Mais nous l'avons toujours fait de bon cœur et de bonne grâce, parce que nous considérons que le contact avec ces artistes est toujours très, très enrichissant et apporte une petite touche de créativité, de gaieté dans les immeubles. Donc il est pas toujours facile d'intégrer les œuvres d'art dans des immeubles. Ça peut être soit des œuvres d'art isolées comme des sculptures qui sont posées dans les jardins arrière, qui du reste incitent à plus de transparence pour que de la rue on puisse les observer. Elles peuvent être donc soit effectivement mises dans les murs des halls d'entrée, c'est ce qu'on fait à Vanves par exemple, où des artistes travaillent sur des halls en céramique. Ça peut être aussi posé à l'extérieur de l'immeuble, sur la façade, et être intégré à l'architecture. Donc on est amené à faire travailler l'artiste et l'architecte très en amont, de concert.
Alors, je vais finir par une boutade, mais qui est une vraie phrase de l'artiste Ben, connu de tous, qui dit que l'art est un virus. Alors, par les temps qui courent, nous accueillons avec grand plaisir l'art dans les immeubles. Et si c'est un virus, c'est un joli virus, n'est-ce pas ?
Tout à fait, c'est un joli virus qui nous sort un peu de la morosité ambiante, qui nous transporte un peu plus dans l'imaginaire. Et l'art, effectivement, c'est un échappatoire à cette morosité.
Bah écoutez, chers auditeurs, nous finissons avec cette phrase. L'art est un virus, dit Ben. Au revoir et bonne journée à vous. À bientôt sur les ondes de Radio Immo, évidemment.
Conversation urbaine et architecturale. Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-immo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.